الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. La pauvreté est-elle une bénédiction? Invocation d'Attar. Ô Seigneur de Mustapha, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque lit ou écoute le livret « La pauvreté est-elle une bénédiction ?» supprime ses difficultés, accorde-lui des bénédictions dans sa subsistance et pardonne-lui ainsi qu'à ses parents et à sa famille sans avoir à rendre de compte. Amin bijahi khatamin nabiyyin sallallahu alayhi wa sallam. Vertu de l'envoi de la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le dernier prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque envoie la salat sur moi une fois, Allah lui envoie 10 miséricordes. Quiconque envoie la salat sur moi 10 fois, Allah lui envoie 100 miséricordes. Si quelqu'un envoie la salat sur moi 100 fois, Allah écrit entre ses yeux qu'il est à l'abri de l'hypocrisie et du feu de l'enfer, et qu'il sera avec les martyrs le jour du jugement. Sallu ala al-Habib, sallallahu ala Muhammad. Chers frères en islam, si nous observons tout ce qui nous entoure, nous apprenons que la terre fertile, le ciel bleu, les déserts désolés, les vallées verdoyantes, les beaux jardins, les fleurs épanouies, les rivières qui coulent, les étoiles scintillantes, la variété des fruits, la lune lumineuse, le soleil brillant, les minéraux vitaux, les fossiles et les animaux ont tous été créés pour le bénéfice des êtres humains. Le Coran déclare: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Traduction: c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. En commentaire de ce verset, dans Tafsir Siratul Jinan, il est déclaré: il a été dit à tous les musulmans que tout ce qu'il y a sur terre, les rivières, les montagnes, les mers, les mines, les fermes, etc., ont été créés par Allah pour votre bénéfice mondain et religieux. Le bénéfice religieux est que vous serez témoin des merveilles de la terre et reconnaîtrez la sagesse et la puissance d'Allah. Le bénéfice mondain est de manger et de boire depuis les substances de ce monde et de les utiliser librement, à moins qu'il n'y ait une interdiction d'Allah. Comment pouvez-vous rejeter Allah alors que vous avez tous ses bienfaits? Ce verset nous enseigne que tout ce qu'Allah n'a pas interdit est mubah, c'est-à-dire permis et halal. La question qui se pose est que si le monde entier a été créé pour les humains, pourquoi les humains ont-ils été créés? Le Coran répond à cette question. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Traduction: et j'ai créé le djinn et l'homme uniquement pour qu'ils m'adorent. Ce verset est expliqué dans Tafsir Siratul Jinan. Allah Azza wa Jal nous a informé qu'il n'a pas créé les djinns et les hommes seulement pour qu'ils cherchent le monde et s'y perdent. Mais plutôt, il les a créés pour qu'ils l'adorent et accèdent à la reconnaissance, c'est-à-dire la ma'rifa de lui. Ce verset montre que les humains et les djinns n'ont pas été créés sans raison. Ils ont été créés dans le but d'adorer Allah Azza wa Jal. Chers frères en islam, l'objectif ultime des humains est clairement compris à partir de ce verset. Adorer Allah Azza wa Jal et le connaître. Malheureusement, c'est comme si nous avions oublié le but de notre vie. Nous sommes devenus obsédés par le monde qui a été créé comme un lieu de test pour nous et nous le considérons comme quelque chose d'important dans la vie. C'est peut-être parce que nous pensons que l'accumulation de richesses est le but de notre vie. L'amour de la richesse a envahi notre cœur et nos jours et nos nuits tournent autour de notre ambition de devenir riche. Certains tentent même leur chance à la loterie en espérant gagner telle ou telle somme d'argent. L'obsession de devenir riche entraîne une dépendance au jeu de hasard. L'aspiration à devenir plus riche conduit à ne plus se soucier du halal ou du haram. Dans ce cas, la devise devient « obtenez de l'argent, peu importe comment ». Si un musulman est engagé dans de telles actions et que vous pensez qu'il acceptera votre conseil, rectifiez-le avec gentillesse. Informez-le des méfaits de la richesse et de l'avarice haram. Encouragez-le à participer au rassemblement hebdomadaire et amenez-le à regarder les Madani Muzakara et voyager dans les Madani Qafila. On observe souvent que lorsqu'on tente de corriger ces personnes, elles n'écoutent généralement pas attentivement. Au lieu de cela, elles regardent ici et là avec négligence tout en se grattant la tête. Vous ne devez pas perdre votre détermination et finir par les gronder, ni faire un pas en arrière en essayant de faire d'eux une meilleure version d'eux-mêmes. Poursuivez vos efforts avec amour et douceur. Nous avons l'espoir, dans la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, qu'un jour leur cœur changera, qu'ils se repentiront de leurs mauvaises habitudes et qu'ils poursuivront leur chemin pour devenir des musulmans exemplaires. Parfois, le diable instille la peur de la pauvreté chez les gens et les encourage à amasser des richesses par des moyens licites et illicites. Dans ce cas, il faut rester vigilant et s'en remettre à Allah. Cela éliminera la peur de la pauvreté et chassera les chuchotements du diable. Pour vous motiver à vous en remettre à Allah Azza wa Jal, prenez note du récit suivant d'un pieux prédécesseur, Rahmatullahi alayh. Désir de gui et de miel dans la jungle. Un homme pieux se trouvait dans une jungle lorsque Satan lui dit « Tu n'as pas de provisions et cette jungle est mortelle, il n'y a pas de gens ici non plus ». Par conséquent, l'homme avait l'intention de traverser la jungle sans provisions. Pour ne pas rencontrer d'autres personnes, il choisit de ne pas emprunter le chemin principal. De plus, il formula l'intention de ne pas manger à moins qu'on ne lui mette du gui et du miel dans la bouche. Ensuite, il poursuivit son voyage. Il dit « J'ai marché aussi longtemps qu'Allah me l'a permis, puis j'ai vu une caravane qui s'était égarée. Dès que je les ai vus, je me suis couché par terre pour qu'ils ne me voient pas. Mais ils ont continué à marcher jusqu'à ce qu'ils tombent sur moi. Mes yeux étaient fermés. Me voyant, ils dirent « Il semble que ses provisions pour le voyage soient épuisées et qu'il ait perdu connaissance à cause de la faim et de la soif. Mettez-lui du gui et du miel dans la bouche, cela le réveillera peut-être. » Lorsqu'ils ont apporté le gui et le miel, j'ai fermement fermé la bouche. Quand ils ont décidé de m'ouvrir la bouche de force avec un couteau, cela m'a fait rire et j'ai ouvert la bouche. « Non, répondis-je, la louange est à Allah. Je leur ai dit que par la miséricorde d'Allah, je suis saint d'esprit. Puis je les ai informés de l'incident des chuchotements sataniques. » Cet incident illustre la pratique des pieux prédécesseurs, rahimahumullah, de s'en remettre uniquement à Allah lorsqu'ils entreprenaient un voyage, sans chercher d'autres moyens. Ils étaient également préparés à combattre les chuchotements du diable. Cependant, la règle pour nous est de nous en remettre à Allah et d'utiliser les moyens à notre disposition. Cet incident nous apprend que les gens d'autrefois utilisaient beaucoup le miel, comme il est mentionné dans le Coran.
يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ.
Traduction : une boisson colorée sort de son ventre dans laquelle il y a la guérison pour les gens. Il est déclaré dans Tafsir Siratul Jinan concernant ce verset « De leur ventre sort quelque chose à boire, le miel, blanc, jaune et rouge. Il y a un remède pour les gens. Le miel est l'un des médicaments les plus bénéfiques et il est utilisé dans de nombreux médicaments. Chers frères en islam, il est sunnah de manger du miel et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aimait en manger. Il est rapporté
« Kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yu'jibuhu al-halwa'u wal-'asalu. »
Traduction : le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait manger des choses comestibles sucrées et du miel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait aussi manger de la courge. Il est écrit dans Tafsir Siratul Jinan : le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait manger de la courge. Sayyiduna Anas radiyallahu anhu a dit : le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait la courge. Un jour, quelqu'un demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam pourquoi il aimait manger de la courge. Il sallallahu alayhi wa sallam répondit « C'est l'arbre de mon frère Younous alayhi salam ». De la même manière, les nobles compagnons alayhim ridwan et les pieux prédécesseurs aimaient aussi manger de la courge. Sayyiduna Anas radiyallahu anhu a dit qu'un tailleur invita le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un repas qu'il avait préparé. Il accompagna le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à ce repas. Le tailleur servit au prophète sallallahu alayhi wa sallam du pain et une soupe à base de courge et de viande séchée. Sayyiduna Anas radiyallahu anhu vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam prendre les morceaux de courge du plat. Et depuis ce jour, il aima également la courge. Sayyiduna Abu Talut radiyallahu anhu a dit « Je suis allé chez Anas radiyallahu anhu et je le vis en train de manger de la courge. Il dit « Ô arbre, tu ne m'es cher seulement que parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'aimait. » Les bienfaits médicaux de la courge. Alhamdoulillah, les experts médicaux ont cité de nombreux avantages pour la santé en consommant de la courge. En voici 7 d'entre eux. Numéro 1. La courge contient de la vitamine C, du sodium, du potassium et du fer. Sa consommation quotidienne donne non seulement de la force, mais elle protège aussi l'estomac contre diverses maladies. Numéro 2. La courge est naturellement fraîche. Elle protège donc des effets de la chaleur et réduit la fatigue. Numéro 3. La consommation de la courge augmente l'appétit et réduit la faiblesse. Numéro 4. Elle est bénéfique pour les personnes souffrant de constipation. Numéro 5. Elle est utile pour soulager les douleurs hépatiques. Numéro 6. Elle est efficace pour traiter les maladies urinaires, les maladies du foie et la jaunisse. Numéro 7. Son huile de graine peut être utilisée pour traiter les maux de tête. Elle est bénéfique pour le cuir chevelu et elle induit le sommeil. Au dévot du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous avons appris que manger de la courge est une sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les pieux prédécesseurs, rahimahumullah, suivirent ses traces et en mangèrent avec bonheur. Tout ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aimait devrait nous être cher, et tout ce qu'il n'aimait pas devrait nous déplaire à nous aussi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a exprimé son goût pour la courge. Nous devrions donc la manger avec plaisir, avec l'intention de suivre la sunna. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'aimait pas écouter de la musique. Cela doit être aussi notre position. Si nous adoptons ce principe dans notre vie, nous réussirons, incha'Allah. Sallu ala al-habib, sallallahu ala Muhammad. Chers frères en islam, les pieux prédécesseurs, rahimahumullah, s'en remettaient à Allah de la meilleure des manières. Ils ne craignaient pas la pauvreté. S'ils étaient confrontés à des difficultés, ils demandaient l'aide d'Allah et il les aidait. Si vous êtes dans la pauvreté, n'ayez pas peur. Lisez les récits des pieux prédécesseurs rahimahumullah pour dissiper cette peur. On observe que ceux qui s'éloignent du monde, le monde se présente à leurs pieds. Il y a aussi des gens qui travaillent dur pour ce monde, mais la mort les rattrape avant qu'ils ne progressent de manière significative. L'addiction à l'accumulation de richesses est dangereuse. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le monde est la maison de ceux qui n'ont pas de maison. Et ces richesses sont pour ceux qui n'ont pas de richesses. Seuls ceux qui n'ont pas de sens l'accumulent. Au lieu de craindre la pauvreté et chercher à acquérir des richesses et un rang dans ce monde, adoptez la patience et comptez sur Allah où que vous soyez dans la vie. Telle est la voix de nos pieux prédécesseurs rahimahumullah. Voici un bel exemple de l'imam Ahmad Raza Khan rahmatullah alayh donnant des conseils. Il conseilla quelqu'un qui se plaignait de la pauvreté. Le raviveur de l'islam, l'imam d'Ahl Sunnah, imam Ahmad Raza Khan, rahmatullah alayh, a dit « Un jeune homme de la lignée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était frappé par la pauvreté. Mécontent, il venait me voir et se plaignait de sa situation. Un jour, lorsqu'il était très inquiet, je lui ai demandé « Si le père d'une personne divorce d'une femme, est-il permis à son fils d'épouser cette femme ?» Le jeune homme répondit « Non ». J'ai dit, ton arrière-grand-père, Sayyidina Ali bin Abi Talib radiallahu anhu, était seul dans une pièce lorsqu'il s'est essuyé le visage avec sa main et a dit, ô monde, trompe quelqu'un d'autre, je t'ai divorcé et tu ne pourras plus jamais revenir vers moi. Après avoir entendu cette déclaration, la pauvreté de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam te surprend-elle? L'homme répondit, je jure par Allah, tes paroles ont soulagé mon cœur. Alhamdulillah, après cela, l'homme ne se plaignit plus jamais de sa pauvreté. Ô amoureux de l'imam Ahmad Raza Khan, rahmatullahi alayh, cet incident nous enseigne qu'il ne faut jamais se surcharger d'inquiétude face aux difficultés et à la pauvreté. Le succès ne réside pas dans la quantité de richesses que l'on possède, mais plutôt dans le fait d'être satisfait de la volonté d'Allah. Nous avons également appris que chaque fois qu'il est nécessaire de conseiller un frère musulman, il faut le faire avec sagesse tout en gardant à l'esprit son rang. L'exemple de l'imam Ahmad Raza Khan rahmatullah alayh est un bel exemple pour nous. Il n'a ni utilisé de mots qui auraient pu être embarrassants et ni été durs. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde également la capacité d'inviter à la droiture de manière efficace. Amin, bijahi khatamin nabijin sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. La pauvreté qui empêche une personne de commettre des péchés, qui ne la pousse pas à négliger le souvenir d'Allah et qui l'aide à être patiente et reconnaissante, est une grande bénédiction de notre Seigneur. Malheureusement, certaines personnes touchées par la pauvreté font preuve d'un manque de patience. Elles se plaignent et finissent par être ingrates et désobéissantes envers Allah. Certaines prononcent même sans crainte des paroles de mécréance. Ceux qui sont frappés par la pauvreté et qui doivent dépendre des autres doivent chercher refuge auprès d'Allah contre la pauvreté qui conduit à se plaindre, à faire preuve d'ingratitude et de désobéissance envers lui, et à prononcer des paroles de mécréance, ce qui peut ruiner la foi. Si le pauvre adopte la patience et ne se plaint pas de son état auprès des autres, il recevra une grande récompense. Les pauvres sont dans une position avantageuse parce qu'ils ne possèdent pas les luxes du monde et les moyens qui mènent au péché. En revanche, les riches ont facilement accès à de nombreux péchés. Certains pauvres observent les riches s'adonner aux plaisirs et aux luxes du monde, puis ils se languissent des derniers smartphones, ordinateurs et téléviseurs, souhaitant eux aussi pouvoir écouter de la musique et regarder des films et des séries. Prenez note que la ferme intention de pécher fait de quelqu'un un pécheur, même s'il ne commet pas le péché. C'est écrit à la page 286 de Malfouzate Ala Hazrat. S'il y a un rassemblement de personnes pieuses et qu'en apprenant l'existence de ce rassemblement, quelqu'un éprouve du regret de ne pas y participer, il recevra la même quantité de récompenses que ceux qui sont dans le rassemblement. S'il exprime le regret de ne pas avoir participé à un rassemblement de personnes mauvaises, il recevra la même quantité de péchés que ceux qui sont dans le rassemblement. Il est écrit dans Bahare Shariat que si l'on a la ferme intention de commettre un péché, ce que l'on appelle azm, il s'agit alors d'un péché même si l'on ne le commet pas. Une intention ferme est appelée azm. Lorsque l'esprit est déterminé à acquérir quelque chose et que le nafs est enclin à le faire, cette intention est appelée azm. On recevra une récompense si l'on avait l'intention de faire le bien et un péché si l'on avait l'intention de faire le mal, même si le péché n'a pas été commis. Par exemple, supposons qu'un frère en islam qui assiste habituellement au rassemblement hebdomadaire du jeudi ne peut s'y rendre en raison de son emploi du temps chargé ou oublia d'y assister. Il se souvint finalement du rassemblement, mais il était trop tard. S'il ressentit vraiment le regret et la privation du rassemblement, il recevra la récompense d'y assister, Inch'Allah. Cependant, si quelqu'un a la ferme intention de pécher, comme aller au cinéma pour regarder un film, mais qu'il arrive au cinéma lorsque le film fut terminé, il commettra un péché s'il exprime le regret d'avoir manqué l'occasion de pécher. De même qu'il est au courant que les gens se plaignent de la pauvreté, il est également courant qu'ils ne fassent pas preuve de patience en se lamentant et en se battant à la mort d'un membre de leur famille. C'est particulièrement le cas des femmes. Si une personne décède à l'hôpital, c'est le chaos. Les membres de la famille se disputent, se battent, voire maltraitent et menacent les médecins et les infirmières. Cela ne ramènera pas la personne décédée à la vie. La mort d'une personne est une grande épreuve pour les membres de sa famille. Dans ces moments d'émotion, il est nécessaire de faire preuve de patience et de contrôler ce que nous disons. La récompense de la patience peut être perdue à cause de l'impatience. Il n'y a pas de mal à verser des larmes pour le défunt, mais il est interdit de se lamenter, c'est-à-dire exagérer les caractéristiques du défunt et pleurer d'une voix forte. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Les femmes qui se lamentent formeront deux rangées en enfer le jour du jugement. Une rangée sera à droite des habitants de l'enfer et une rangée à gauche. Et elles aboieront sur les habitants de l'enfer comme des chiens. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a également dit « Si la femme qui se lamente ne se repent pas avant de mourir, on lui fera porter, le jour du jugement, un vêtement de poids et une chemise de gale. » Le mufti Ahmadi Arhan, rahmatullah alayh, a déclaré « La résine s'enflamme et s'échauffe très facilement. »
Les femmes qui se lamentent, de la manière décrite précédemment, seront punies le jour du jugement par une maladie qui provoque des démangeaisons, parce qu'elles avaient l'habitude d'apporter intentionnellement de la tristesse dans le cœur des gens. Nous apprenons également qu'il est interdit de se lamenter, que ce soit par la parole ou par l'action. Les formes féminines des noms et des verbes sont utilisées parce que ce sont généralement les femmes qui se lamentent et gémissent. Parfois, certaines femmes se sentent intérieurement heureuses à la mort d'une personne parce qu'elles étaient en conflit avec elle. Cependant, elles pleurent et se lamentent plus que d'autres, bien qu'elles se sentent soulagées en pensant « bon débarras, il ne m'aurait pas permis de faire tel ou tel acte », qui sont tous des péchés. Malheureusement, la loyauté et la fraternité sont rares. Il n'est pas rare d'entendre des nouvelles dévastatrices d'un fils assassinant son père ou d'un frère tuant son frère. Parfois, un fils tue son propre père pour s'emparer de ses biens. Au lieu de cela, il se fait arrêter et passe du temps en prison. Dans certains pays, ces personnes finissent même dans le couloir de la mort. Chers frères en islam, dans la vieillesse, les membres s'affaiblissent et ne fonctionnent plus aussi bien. Les proches nous quittent. Des personnes qui étaient les nôtres et d'autres qui ne l'étaient pas nous dérangent. Les maladies et les difficultés nous entourent. Nous perdons espoir en tout et en tous. Cependant, l'amour de la richesse est toujours présent dans le cœur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le fils d'Adam vieillit, mais deux désirs en lui restent jeunes, le désir de richesse et le désir de la vie. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a également dit « Si le fils d'Adam possédait deux vallées de richesse, il en désirerait une troisième. Seule la terre de la tombe peut rassasier l'estomac du fils d'Adam. » Beaucoup de gens travaillent dur inutilement pendant leur vieillesse, même lorsque leur peau devient flasque à cause de l'âge. Si on les voit quelque part et qu'on leur demande où ils vont, ils répondent qu'ils se rendent à leur travail. Cependant, leur état est tel qu'ils ne reçoivent pas de temps libre pour accomplir la prière. Ils ne se laissent pas pousser la barbe, et ils vous demandent simplement d'invoquer pour eux si vous les encouragez à faire le bien. Le fait de leur donner des conseils n'a aucun effet sur eux. Si vous continuez à leur donner de bons conseils, ils vous répondent en prétendant qu'ils sont en retard, pour ensuite retourner au travail et s'engager dans cette vie mondaine. Il arrive même que l'on apprenne aux nouvelles que la même personne a été abattue en essayant de se défendre contre des voleurs. En conséquence, les gens viennent en grand nombre présenter leurs condoléances, certains parents et étrangers versent des larmes de crocodile, et la police est invitée à trouver les coupables pour qu'ils répondent de leurs actes. Mais après quelques jours, les gens oublient ce qui s'est passé et reprennent leur vie normale. De même, des hommes d'affaires où leurs enfants sont enlevés et une rançon est exigée pour leur libération. Si la rançon n'est pas payée, les victimes sont tuées et leurs corps jetés à la poubelle. Si un pauvre est enlevé, il est libéré parce qu'il n'a aucune valeur. Il est important de noter qu'il n'y a rien de mal à être riche. Si la richesse est utilisée pour satisfaire les droits d'Allah et les droits des gens, elle est bénéfique. Sinon, elle est nuisible. Ceux qui bénéficient d'un certain confort dans ce monde sont également mis à rude épreuve, ce qui peut servir de rappel à l'ordre pour les autres.
Une personne avide ne vit que dans le but de vivre sa meilleure vie sans se soucier de savoir si cela ruinera son avenir. C'est pourquoi nous ne devons jamais faire confiance à notre nafs, car nous ne savons pas dans quel état nous nous trouverons si nous y succombons. Recevoir de la richesse pourrait nous faire abandonner les droits d'Allah et des gens, nous rendre insouciants de la tombe et de l'au-delà, nous amener à négliger la prière et nous laisser engager dans le haram, et nous éloigner des actes vertueux comme la récitation du Coran, l'accomplissement du dhikr d'Allah et la récitation des salawat. Nous pouvons nous retrouver plongés dans l'amour de la richesse, ce qui nous expose au vol, à la jalousie et à l'extorsion. Na mujko azma dunya ka malo zar ata karke ata kar apna gham aur chashme giran ya rasulallah. Sallu ala al-habib sallallahu ala Muhammad. Comment supprimer la pauvreté? Chers frères en islam, de nos jours, il y a beaucoup de gens qui sont au chômage et ceux qui ont un emploi sont dans toutes sortes de difficultés financières. Si nous prenons l'habitude d'accomplir la prière de Chasht, cela apportera des bénédictions dans notre subsistance ainsi que d'autres bienfaits, Inch'Allah. Sayyidina Shaqiq Balkhi rahmatullah alayhi a déclaré: nous avons demandé 5 choses que nous avons ensuite trouvées dans 5 choses, dont l'une est que, lorsque nous avons demandé des bénédictions dans notre subsistance, nous les avons trouvées dans la prière de Chasht. Les actes suivants apportent également des bénédictions en matière de subsistance. Réciter la sourate Al-Waqi'a de façon continue, en particulier après la prière de Maghrib. Accomplir la prière de Tahajjud. Chercher souvent à se repentir. Réciter l'istighfar 70 fois entre les sunnah et les fard de la prière de Fajr. Réciter Ayatul Kursi et Surat Al-Ikhlas à la maison. Réciter les salawat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en abondance. Sallu ala al-habib sallallahu ala Muhammad.